on se décourageait. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme vient me tourmenter, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. » Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Que nous rentrons dans une non, rentrer à partir de je crois que c'est fait puisque il est 18h passé, nous rentrons dans la dernière semaine du temps ordinaire. Parce que c'est on s'est trompé, c'est une première lecture, on s'est trompé. Mais c'est très bien parce que ça tombait très bien, persévérance dans tout là, torture du martyr. Parce qu'on se prépare, mais on se prépare à pas être torturé, mais on se prépare à ce que notre amour soit si fort, soit victorieux de tout. Et on rentre dans la dernière semaine. La dernière semaine, et donc dans une semaine, dimanche prochain, on rentre dans l'avant. Mais la dernière semaine de l'année. Pour les chrétiens, la semaine, l'année se termine ensuite, dans 8 jours. Si vous voulez faire vraiment, mais par exemple, une espèce de dernier effort pour que l'année soit bouclée dans la perfection, vous avez 7 jours. Alors l'année liturgique sera parfaite. Très important la dernière semaine. Parce qu'il y a une grâce du Christ ressuscité dans chaque cycle de l'éternité qui fait vivre le temps d'Église. Et le temps d'Église circule jusque à la 33e semaine du temps ordinaire. Et vous allez voir que l'Écriture, l'Évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle nous dit, mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la parodie, c'est le retour, c'est le final. Et on s'entraîne dans la dernière semaine, voyez, pour toute l'église apostolique. Elle s'entraîne à ce que ce soit la fin. Elle s'entraîne, elle fait, chacun d'entre nous, nous savons que la manière dont nous allons vivre cette dernière semaine, ce sera la même manière dont nous vivrons l'église vivra la fin des temps, mais à notre niveau. Si par exemple nous avons la chance, ce qui serait merveilleux, ce que j'aimerais beaucoup, d'être là pour le retour du Christ. D'accord, j'allais dire notre aptitude contemplative, amoureuse de Dieu et du prochain, elle doit être complètement débordante. Exactement comme le soir. Vous voyez, c'est marrant l'histoire du temps et de l'éternité. Le soir, quand tu t'endors, le soir, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a fait la nuit?
Pour se reposer.
Il a fait la nuit pour t'entraîner à rentrer au. Alors. Il a fait la nuit pour t'entraîner à rentrer au
sommeil.
À rentrer au ciel. Parce que quand tu vas t'endormir la dernière fois sur la terre, tu te réveilles où? Tu te réveilles au ciel. Et donc, tu t'entraînes tous les soirs dernier moment de ta vie avant d'entrer au ciel. La manière dont tu vas mourir le jour de ta mort, ce sera la même manière dont tu t'es endormi tous les soirs. Et il y a quelque chose de semblable dans la dernière semaine extraordinaire qui nous reste 6 ou 7 jours. Nous nous endormons dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire de vivre la 33e semaine extraordinaire. Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'à ce moment-là.
C'est pas dans le livre.
C'est dans le livre. Bien sûr que c'est dans le livre. Sinon, je ne dirais pas si ce n'était pas dans le livre. Alors, est-ce que je vais rencontrer des mensonges? Alors, et regarde ce que Jésus dit. Jésus dit une parabole pour expliquer. Il dit, hey, s'il vous plaît, on est dans le besoin. Tout va mal, on n'est pas des saints, c'est bien évident. On n'est pas des saints. Mais il faut quand même savoir que sur la fin, nous ne serons pas des saints. Il y aura quoi? Des éclopés, des mendiants, des aveugles, des boiteux, des tordus. Pour la fin, c'est ça. À la fin, c'est ça. On se reconnaît, nous on se reconnaît là. On est bien pour ça. On n'est pas les élites de la nation, sûrement pas. Mais on sait qu'on est proche de la fin. Et à la fin, on est des éclopés. On n'y arrive pas. On n'a pas les vertus. On n'a pas les vertus. Eh bien, on est un peu comme cette femme. Et on dit, mais alors, et vous croyez que Dieu ne va pas vous écouter? Parce que tu crois quoi? Tu crois que Dieu regarde quoi quand il te regarde? Qu'il regarde tes vertus? Qu'il regarde tes qualités? Mais il ne regarde pas tes qualités. Il ne regarde pas tes vertus. Il regarde en toi cette soif d'amour. Voilà, tu regardes, il voit que tu l'aimes. Alors à ce moment-là, il ne peut le voir qu'à une seule condition, c'est que tu cries vers lui, jour et nuit. Tu cries vers lui. Remplis-moi, sauve-moi, transforme-moi, guéris-moi, illumine. Qui est cette conversion, cette mutation, cet incendie, un dehors de moi. Du temps, mais non, j'y arriverai pas. À chaque fois que je prie, le bon Dieu ne m'écoute pas. Et le Seigneur, il fait la sourde oreille. Et moi, je suis trop bête, de toute façon, je comprends qu'il ne s'intéresse pas du tout à moi. Sauf certains. Bon. Ce sont certains qui sont très présomptueux, qui disent, moi, si je prie du bon Dieu, il m'écoute. Bon, ici, personne, ici, bien entendu. Ici, tout le monde sait que ici, il n'y a personne de ce genre. Hein? Bien sûr. Mais en tout cas, vous voyez bien la parabole que dit le Christ. J'aime beaucoup cette parabole parce que il dit au fond, écoutez, vous êtes complet. C'est un peu ça. Ça fait comme ça que je l'entends. J'imagine le ton de Jésus, il dit quand même, vous êtes complet. Vous êtes complet. Vous criez vers Dieu et vous croyez qu'il ne vous écoute pas. Vous criez vers Dieu et vous croyez qu'il ne vous répond pas.
Oui.
Vous criez vers Dieu et vous croyez qu'il ne vous donne pas ce que vous demandez.
Oui.
Ah mais alors écoutez, là il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire. Parce que prenez l'exemple d'une femme qui est bénie, hein, qui vous crie dans les oreilles, à quelqu'un un juge, un espèce de juge, un espèce de type bien corrompu, par la méthode moderne. Allez, pose pas tout ce que vous voulez. Corrompu jusqu'à la gare. Qui refuse de passer devant les tribunaux, même les tribunaux supérieurs, qui refuse, qui est corrompu, qui est corrompu. Eh bien, si tu lui casses les oreilles, tu l'embêtes jour et nuit, lui il dit, bon, cette femme, écoute, écrit vers moi, je vais au moins me débarrasser, elle me casse les oreilles, c'est ça. C'est ça, j'ai rien à rajouter, je vais. Et, alors qu'il n'aime, alors attention. Il est vraiment incroyable ce type. Il refuse longtemps. C'est juste ce qu'elle demande. Elle est lésée. C'est lui qui doit réparer, il juge. Et pourtant il dit, je refuse, il ne fait pas son travail. Deuxièmement, il ne s'aime pas lui-même, il ne se respecte même pas dans sa fonction. Il ne s'aime pas donc. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, il ne respecte pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Cinquièmement, je me moque des hommes. Il méprise les hommes. Bref, c'est le démon. C'est le démon. C'est les 6 caractéristiques du démon qui sont là. Donc, quand vous allez crier vers le démon pour se débarrasser de vous, eh bien, il va vous accorder ce que vous demandez.
Et toi, tu dis que quand tu cries vers Dieu, Dieu ne t'écoute pas et ne t'accorde pas.
Mais ça veut dire que Dieu est pire que le démon, alors. Tu es gonflé. Tu n'as jamais connu Dieu.
Oui.
Si tu dis ça, tu n'as jamais connu Dieu. Mais il faut savoir crier vers Dieu. Ça prouve que tu n'as jamais crié vers lui. Ah oui, tu as crié vers toi. En réalité, faites attention, la prière, ça n'est pas n'importe comment. Je peux crier, vous voyez, en faisant une prière vers Dieu, mais vous savez bien souvent, notre Dieu, c'est nous-mêmes. Et on crie vers Dieu, en réalité, celui vers qui on crie, c'est vers une espèce d'image de nous-mêmes. La prière n'est peut-être pas ce que vous croyez, c'est tout. Et si Dieu ne vous répond pas, c'est la preuve que vous ne savez pas prier. Et que pour vous, vous avez perdu la foi. Parce que Dieu est amour. Vous avez perdu la connaissance de Dieu. Vous avez perdu la capacité de faire un acte. Et c'est pour ça que Jésus dit ça. À la fin des temps, la foi disparaîtra sur la terre. Et les hommes s'adoreront eux-mêmes. Et la charité se refroidira dans le jour. C'est extraordinaire. Il faut savoir que nous vivons, au fond, la fin des temps, la fin du cycle de l'Église dans cette ambiance. C'est qu'il faut apprendre à crier vers quelqu'un d'autre que nous. Non pas vers nous-mêmes, mais vers un substitut de nous-mêmes. En disant, je voudrais, au fond, que ce soit moi qui soit Dieu. Enfin, c'est parti dans nos prières, c'est ça. Hein? Qu'on a le pouvoir! Qu'on y arrive! Mais non, on veut que ce soit Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, que ce soit quelqu'un de tout à fait autre que nous, Dieu lui-même, qui prenne possession du terrain. Et ça veut dire qu'on crie vers lui pour qu'il n'y ait plus que sa grâce. Ah, si on demande la présence de Dieu et de l'amour de Dieu, la présence du Saint-Esprit, le salut de Dieu tel que Dieu le veut, ah, il nous le donnera. Il nous le donnera. Ah, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier jour et nuit, sans s'arrêter. Et c'est facile de prier jour et nuit sans s'arrêter. Faut pas croire, dis donc, ça a l'air drôlement compliqué son histoire de prière. Jusqu'à maintenant, je croyais que... Mais maintenant, j'arrive pas. Comment est-ce qu'on fait pour prier jour et nuit sans arrêter? Je crois que c'est quand même quelque chose que Jésus, au fond, veut nous apprendre dans des moments comme ceux que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Parce que plus on se trouve désarmé, plus nos points de repère habituels disparaissent, plus on est désorienté, plus ça devient facile de prier jour et nuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Parce qu'à ce moment-là, plus tous ces points de repère disparaissent, plus ça devient facile de se tourner vers celui qui est la seule orientation possible, la seule finalité possible. Plus le mal abonde, plus c'est facile de comprendre que notre finalité n'est pas dans ce monde, que notre finalité n'est pas sur ce monde terrestre. Notre finalité ne se termine pas en nous. Notre finalité se termine dans l'amour, dans l'autre, dans l'extase, dans l'amour qui va jusqu'à la mort. Et c'est là que la lecture que tu as lue est formidable, parce que, justement, elle montre que l'amour va jusqu'à l'extase, et que l'amour et la mort, c'est la même chose. Si tu veux aimer et ne pas mourir, c'est très... Parce que l'amour implique la mort. Parce que dès que tu aimes, eh ben, il n'y a plus que tu disparais. Et en même temps, comme l'autre, Dieu, quand il t'aime, il doit disparaître, il te fait vivre. Et donc tu meurs, mais tu vis l'amour. Tu meurs, mais c'est l'amour qui te fait vivre. Et si tu as peur de la mort, attention. C'est plus possible. Vous voyez, c'est très curieux que sur la fin, le mystère de la croix devient quelque chose de facile à comprendre. Que s'il n'y avait pas la croix, il n'y a plus aucune possibilité pour nous d'aimer. Plus aucune possibilité, si nous avons la haine de la croix, de nous tourner vers Dieu. Mais c'est facile à comprendre, ça. C'est facile à comprendre. Grâce à Jésus crucifié. Grâce à, j'allais dire, nos péchés, si vous voulez. C'est quand même incroyable, si vous voulez. On a des fautes. Bon, on ne va pas se culpabiliser. Hein. Nous, on n'essaie pas de vivre au plan psychologique. Donc, on ne se culpabilise pas. C'est pas ça. Ah là là, j'ai fait des péchés, elle a dit, elle a... Non, ce n'est pas du tout notre problème. Notre problème, c'est que nous trahissons le point de vue de l'amour. Nous n'y arrivons pas. Ben, quelques-uns, on y arrive de mieux en mieux, mais c'est pas facile. Et on dérape, on prend des tangentes, on chute. Bon, on chute, très bien, mais heureusement. On se décourage, tant mieux. On n'arrive pas à persévérer, tant mieux. Ben, tant mieux, c'est triste. Persévérons quand même, continuons. Courage, n'ayez pas peur, foncez. Hein, esprit de force. Foncez, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Lui, il fonce dans le Saint-Hyper, victorieusement. N'y arrive pas, tout grand, n'aie pas peur. Mais grâce à ça, comme tu as une faiblesse, tu as une faute, à ce moment-là, tu peux te tourner vers Dieu. Tu peux te tourner vers la paternité d'amour de Dieu, qui donne vitalement l'amour, substantiellement l'amour. Et tu peux confesser vers le Père. Voilà ce que je vaux. Voilà ce que je vaux. Ce que Jésus a fait. Jésus, il a pris sur lui les péchés du monde entier. Et il a fait la dernière confession devant le Père. Parce que Jésus, il n'a pas péché, mais il a pris sur lui tous les sentiments des pécheurs, tout ce que ressentent les athées, les corrompus, tout ce qu'ils ressentent de dégoût, de répulsion par rapport à Dieu. Il a porté en lui tout. Mais il est victorieux ça, de tout ce qu'il ressentait. Et il a dit au Père, dans son humanité, transformée dans la kénos de la rédemption, il a fait la confession substantielle. Il a dit, voilà ce que je vaux, voilà ce que je vaux, voilà ce que l'homme vaut, voilà ce que le Fils de l'homme vaut. Je ne vaux rien. Et à chaque fois que j'ai péché, à chaque fois que j'ai une faute, je peux faire cette confession. Je ne vaux rien. Je ne vaux pas grand-chose. Je peux me tourner vers le prêtre. Je peux me tourner surtout vers la très sainte Trinité, vers l'Immaculée en disant voilà ce que je vaux. Mais le mieux, vous voyez, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, je rejoins la confession de Jésus crucifié. Je ne suis pas seul. Et c'est à ce moment-là que ma prière se transforme en cri vers Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là, à partir du moment où je monte sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous comprenez que monter sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du masochisme, etc. C'est une activité d'amour du Christ crucifié qui prend sur lui les fautes. Et à travers nos fautes, à nous, on peut enfin comprendre ce que Jésus disait au Père. Il en était totalement séparé, bien plus que nous. Et il a crié vers le Père. Voilà ce que je vous... C'est facile de faire ça. Et à partir du moment où vous faites ça, vous devenez des saints. Ça vaut la peine. Et la seule chose qu'on puisse demander à Jésus et au Saint-Esprit et à Dieu, c'est qu'on soit des saints. C'est que Jésus complète tout. C'est pour ça que c'est idiot de désespérer parce qu'on n'y arrive pas. Un manque de foi. Il n'y a que celui qui n'a pas la foi qui désespère parce qu'il a des fautes. J'y arriverai pas. J'y arrive, donc, premièrement, tu y arrives. Alors, allez voir un perspective et dis, écoute, je te connais depuis à peu près 7 ans, tu as fait des progrès considérables. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Objectivement, mais subjectivement, on n'a pas l'impression. Objectivement, des progrès considérables. De toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut devenir des saints. Et la sainteté consiste à comprendre que à travers nos défaillances, nos trahisons, nos échecs, nos limites, je peux faire la confession d'amour du Christ sur la croix pour vivre et prolonger mes fautes et mes insuffisances par la victoire glorieuse. Le cri du chrétien, c'est le cri de soif de Jésus crucifié.
J'ai soif. Voilà ce que je veux. J'ai soif de toi et de la gloire éternelle. D'un amour victorieux sur tout le cosmos, le temps et toutes les défaillances de tous les êtres humains, de tous les temps. À travers moi,
à travers mon petit cœur à moi, à travers ton petit cœur à toi.
Et Jésus a besoin de passer par mon petit cœur à moi. Sinon, il y a une fleur qui ne parfumera pas le paradis. Alors, nous allons demander à Jésus de rentrer dans cette prière, si vous voulez bien, d'apprendre cette prière, de confesser, j'allais dire, le mal du monde entier, et enfin de participer à la victoire universelle de l'amour sur toutes les limites de l'humain. C'est vrai. On va demander à Jésus de coopérer à ça, d'être des grands coopérateurs de l'amour, des grands apôtres de la miséricorde, et des héros du don. On se donne, et on ne recule pas. On donne tout de suite. On fait comme notre ami Michel. Et on va demander à Jésus ça pendant cette semaine, de faire que, au fond, dans l'église de Jésus, dans nos familles, dans ce qu'on connaît, en nous-mêmes, il y a plus cette peur, mais qu'il y ait ce cri extraordinaire qui structure la vie intérieure des saints lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Dis-moi, dis. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Oui, ça fait bien plus son prénom. Gabriel, dis. Est-ce que ça t'arrive de prier comme ça vers Dieu? Ça t'arrive à la maison de prier?
Oui.
Alors qu'est-ce que tu dis? Tu lui dis quoi? Seigneur, sauve-moi. Comment tu lui dis? Dis-le. Seigneur, sauve-moi. Vas-y.
Seigneur, sauve-moi.
Plus fort.
Seigneur, sauve-moi.
Non, beaucoup plus fort.
Seigneur, sauve-moi.
Non, c'est pas assez fort.
Seigneur, sauve-moi.
Vas-y.
Seigneur, sauve-moi.
C'est mieux, mais il faut que tu apprennes à faire de plus en plus fort. D'accord?
Il n'est pas convaincu. Non, on le fera à sa place.
Il est quand même merveilleux, 4 ans, moi j'aurais aimé toute l'après-midi. C'est clair.